Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette chronique hebdomadaire, tous les lundis, cette chronique historique, avec Elias Acoca-Vigneron, professeur d'histoire et fondateur de la plateforme d'art et d'histoire, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur Google. Alors, je remercie aussi notre partenaire Yes or No, une application de paris en ligne, si j'ai bien compris. Et je vous propose de commencer en musique pour ce 8 novembre. Alors, les plus mélomanes d'entre vous reconnaissent peut-être le morceau de Richard Strauss, Tanzsuite, composé en 1923. Eh bien, en cette même année 1923, un autre Autrichien, le 8 novembre donc, Adolf Hitler, tente un coup d'État à Munich. Et nous allons faire le récit de ce coup d'État et de ses conséquences. Est-ce que le parti nazi aurait pu prendre le pouvoir dès 1923 en Allemagne ? Alors pour comprendre cette tentative de coup d'État, il faut d'abord revenir sur le contexte. 1923, on est à peine 5 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu s'opposer l'Allemagne, l'Autriche d'un côté, et de l'autre les troupes alliées autour de la France, à savoir l'Angleterre, l'Australie, la Russie jusqu'en 1917, l'Italie à partir de 1915 et bien sûr les États-Unis. Et cela s'est soldé par la victoire de la Triple Entente et donc des troupes alliées et par le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces à Versailles, à l'endroit même où en janvier 1871 le Reich allemand avait été proclamé. Et ce traité est jugé humiliant par beaucoup d'Allemands. Traité jugé humiliant parce que d'abord les Allemands n'ont pas été invités à discuter des conditions de ce traité. Ils l'auraient imposé et les Allemands l'appellent un diktat, c'est-à-dire une décision imposée sans concertation. Ce traité prévoit que l'Allemagne perd des territoires, bien sûr l'Alsace-Lorraine qui est rendue à la France, l'Alsace-Lorraine qui avait été perdue après la guerre franco-prussienne de 1870, mais aussi la Prusse orientale. Des réparations de guerre sont de plus imposées à l'Allemagne, car l'essentiel des combats s'étant déroulés sur le territoire français, il faut réparer toutes les destructions que cela a entraînées. Et puis, à partir de janvier 1923, alors que l'Allemagne tarde à payer ses réparations de guerre, et bien la France et la Belgique décident d'occuper la Rhénanie et la Ruhr, des régions frontalières donc, mais qui sont aussi très riches en charbon, hein, 80% du charbon de l'Allemagne provenait de ces régions. Et William Kuhnau, qui est alors chancelier allemand, décrète une résistance passive, ce qui provoque une forte hyperinflation, c'est-à-dire que les prix augmente terriblement en cette année 1923. La monnaie plutôt perd de sa valeur. Et puis, toute cette période aussi est très agitée parce que les généraux qui ont mené l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, à savoir Hindenburg et Ludendorff, et qui ont, dès septembre 1918, engagé des pourparlers pour une capitulation ou une armistice, eh bien, refusent d'endosser la signature de ce traité, qui est donc endossé par les responsables politiques d'une nouvelle république proclamée le 9 novembre 1918, la République de Weimar, puisque c'est dans cette ville que cette république a été proclamée, en remplacement donc du Kaiser, l'empereur qui s'enfuit au Danemark. Toute cette période aussi est marquée par des agitations. On est peu de temps après la révolution russe de 1917 et plusieurs tentatives de coup d'État ou de révolution menées par les communistes. Alors la plus célèbre d'entre elles, c'est celle de janvier 1917, la révolte spartakiste de Berlin du 5 au 12 janvier, durant laquelle Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont tués. Mais on pourrait aussi citer la tentative de République des Conseils de Bavière d'avril à mai 1919, durant laquelle un gouvernement communiste s'empare de la Bavière. En réaction, il y a tout un mouvement nationaliste, antisémite aussi, qui attribue la défaite aux ennemis de l'intérieur, les communistes, mais aussi les juifs, et se créent des mouvements à connotation raciste, antisémite, nationaliste. Le Parti des travailleurs allemands, bientôt Parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, fondé par Anton Drexler et Karl Harrer en février 1920, que l'on connaît plus sous le nom de Parti nazi, et dont rapidement, dès 1921, Adolf Hitler prend le contrôle. Adolf Hitler, à ce moment-là, dote ce nouveau parti d'un journal, le Volkischer Beobachter, et surtout de sections d'assaut, les fameuses SA, dirigées par Ernest Röhm. Il s'inspire donc de ce qu'a fait Benito Mussolini en Italie avec les chemises noires, et donc les SA du parti nazi, ce seront les chemises brunes. Il y a eu aussi des tentatives de coup d'État menées par des groupes d'extrême droite. Alors, on peut, par exemple, évoquer la tentative de mars 1920, menée par Wolfgang Kapp, qui avait fondé le Parti allemand de la patrie en 1917 et qui tente de s'emparer du pouvoir. Et donc, on est dans un moment où on a une République de Weimar qui est contestée aussi bien sur la gauche par le Parti communiste, qui aimerait une révolution, du moins une partie de ce parti communiste, et sur la droite par des mouvements nationalistes et antisémites. Le parti nazi n'est au départ qu'un groupuscule, mais l'occupation de la Ruhr, la crise économique, font qu'il commence à gagner en influence. Et il passe de 20 000 à 55 000 membres au cours de l'année 1923. En cette même année 1923, en septembre, le chancelier Stresemann confie le pouvoir en Bavière à un triumvirat composé de personnalités conservatrices, nationalistes. Alors, Gustav von Kahr, qui est commissaire général, Otto von Lossow, le chef des armées, et Hans Ritter von Seisser, qui est nommé chef de la police. Et on peut supposer que ce triumvirat partage un certain nombre d'idées du parti nazi et d'Adolf Hitler. Et donc, Hitler se dit que c'est peut-être le moment pour le parti nazi d'imiter ce qu'a fait Benito Mussolini en 1922 avec la marche sur Rome et de tenter un coup d'État qui partirait de Bavière, le siège historique de ce parti nazi, là où a été fondé le parti nazi, là où se trouve le siège du parti nazi, la Maison Brune à Munich, et qui ensuite se généraliserait à l'ensemble de l'Allemagne. Et il choisit la date du 9 novembre. Pourquoi ? Parce que le 9 novembre, c'est la date à laquelle la République de Weimar a été proclamée. Alors en fait, le coup d'État va commencer la veille, ou plutôt la tentative de coup d'État. Pourquoi ? Parce que ce 8 novembre 1923, le triumvirat, donc Gustav von Kahr, Otto von Lossow, Hans Ritter von Seisser, qui gouvernent la Bavière, est réuni dans une brasserie de Munich devant un parterre de 3000 personnes pour exposer leur vue pour la Bavière. À 19h15, les portes sont closes et le Triumvirat est à la tribune. À partir de 20h, Hitler et DSA rentrent, entourent cette brasserie plutôt, et à 20h30, Hitler fait son irruption dans la brasserie, un pistolet à la main, et tire en l'air.
La révolution nationale a commencé! Le bâtiment est encerclé! Personne ne peut sortir sans qu'on lui tire dessus! Descendez! Descendez! Gardez votre calme! Restez à vos places. Nous encerclons le bâtiment.
Allez chercher Ludendorff. Désolé de venir vous surprendre, mais vous n'êtes pas étranger à cette intrigue. Je vais former un gouvernement provisoire. Je serai responsable de la police. Le général Ludendorff sera responsable de l'armée. Et j'ai un poste pour chacun de vous. J'ai besoin de votre soutien.
Alors, vous venez d'entendre un extrait de La naissance du mal, Hitler, La naissance du mal, un film qui raconte l'ascension du parti nazi et d'Adolf Hitler, et qui relate cette tentative de coup d'État. Et donc, vous avez compris que Adolf Hitler, après avoir fait interruption dans la brasserie, amène le Triumvirat dans une salle à l'écart pour négocier avec eux, et leur propose de le rejoindre et d'obtenir des postes de ministre. Il se targue du soutien d'un des héros de la Première Guerre mondiale, le général Ludendorff. Le Triumvirat, au départ, temporise, mais à l'arrivée de Ludendorff, vers 21h, ils acceptent de rejoindre Adolf Hitler, qui peut annoncer à la foule que le Triumvirat l'a rejoint. Et sous les acclamations, il pense que la partie est gagnée. Il va rejoindre les troupes SA en ville qui ont eu pour ordre, en même temps qu'il faisait son coup d'État dans la brasserie, de s'emparer des différentes casernes de la ville et d'appeler l'armée à les rejoindre. Et Ludendorff reste dans la brasserie. Ludendorff autorise le Triumvirat à rentrer chez lui. Et c'est là une des premières erreurs de cette tentative de coup d'État. Car les personnalités de ce triumvirat, en rentrant chez eux, appellent le gouvernement à Berlin, se désolidarisent d'Hitler, appellent la presse aussi pour se désolidariser d'Hitler. Et deuxième erreur, le fait que l'on puisse appeler, cela montre que les SA ont négligé de prendre le contrôle des centrales téléphoniques. Et donc, c'est un coup d'État où les différentes casernes vont pouvoir prévenir des renforts situé autour de Munich. Par ailleurs, toutes les casernes n'acceptent pas de rejoindre ce coup d'État. Au cours de la nuit, certaines casernes donc rejoignent le coup d'État, d'autres non. Et le matin, du 9 novembre, la situation est incertaine. Hitler et Ludendorff décident alors de tenter un nouveau coup de force et donc de marcher avec 2000 SA vers le ministère de la guerre situé à Munich. Ils sont acclamés sur leur passage par la foule. Ils passent un premier barrage de police sans qu'on ne les empêche de passer. Le 9 novembre, au matin, la situation est donc incertaine. Adolf Hitler et Ludendorff décident donc un nouveau coup de force. Ils décident de marcher sur le ministère de la guerre avec 2000 SA. Acclamé par la foule, il passe un premier barrage de police sans encombre. Mais à 12h30, au niveau de la Felder Hall, un barrage de police s'oppose à eux et refuse de les laisser passer. Hitler et Ludendorff s'avancent, pensant que la police n'osera pas tirer sur Ludendorff. Mais la police tire, Hitler est projeté au sol par ceux qui l'entourent, son épaule est démise, si personne meurt dans la fusillade, d'autres sont blessés, Ludendorff est arrêté et Hitler s'enfuit dans sa maison de campagne. Au même moment, Ernst Röhm, qui dirige les SA, est encerclé dans le quartier général de l'armée, qu'il avait réussi à s'accaparer à Munich, et il accepte de se rendre à condition que ses hommes puissent sortir libres de ce quartier général. Hitler, lui, est arrêté le surlendemain du 11 novembre, et il va être donc jugé. Alors, ce jugement va être en fait très clément. D'abord, Ludendorff est dégagé de toute responsabilité. Et puis, Adolf Hitler n'est condamné qu'à 5 ans de prison, qui sont en fait ramenés à simplement 13 mois de prison dans la forteresse de Landsberg. Il en profitera pour écrire « Mein Kampf, mon combat » qu'il va dicter à son secrétaire Rudolf Hess. Et on a avec ce livre, « Mein Kampf, mon combat », qui est publié en 1925 puis 1926, il y a deux tomes. Un premier tome sur lequel Adolf Hitler revient sur sa vie et sur comment il est devenu nazi. Et puis, dans lequel il expose, son antisémitisme obsessionnel. Et puis, un deuxième tome où il exprime ce qu'il veut pour le mouvement national-socialiste et ce que doit être un État nazi. Ce qui est intéressant dans Mein Kampf, c'est que tout est annoncé, notamment son antisémitisme.
Son Excellence rappelle la lutte des jours anciens, partagée par ses deux loyaux compagnons.
Alors, vous venez de reconnaître certainement un extrait du Dictateur de Charlie Chaplin et de ce fameux discours d'Hitler qui est donc incarné par Charlie Chaplin dans ce film. Alors voici ce que Hitler écrit par exemple sur les Juifs dans Mein Kampf. C'est page 629. Le Juif a toujours été un parasite dans le corps des autres peuples. Il passe son temps à chercher un terreau favorable au développement de sa race. Il est et il demeure le parasite typique, un suceur de vie et de sang qui se développe sans fin, comme un bacille, dès qu'un terrain favorable l'y invite. L'effet de son existence est le même que pour un parasite. Où qu'il apparaisse, le peuple qui l'a accueilli disparaît à plus ou moins brève échéance. Voyez un peu les désastres que le croisement avec les Juifs provoque chaque jour dans d'autres peuples, et rendez-vous compte que cette infection du sang ne pourrait être guérie dans le corps de notre peuple qu'en plusieurs siècles. Cette contamination de notre sang est cependant aujourd'hui réalisée méticuleusement par le Juif. C'est méticuleusement que ces sombres parasites raciaux souillent nos jeunes filles blondes si naïves et détruisent ainsi quelque chose qui ne peut être réparé. Et donc, à cette vision d'Adolf Hitler, du juif comme corrupteur de l'humanité, comme virus qu'il faut éradiquer, il oppose, au sommet de la hiérarchie des races, l'Aryen. Voici un autre extrait. Il est inutile de se demander indéfiniment quelle ou quelle race sont les créateurs originels de la culture humaine, et donc les véritables fondateurs de ce que nous entendons par humanité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui de culture humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique, est presque exclusivement une création de l'Aryan. C'est précisément cette constatation qui nous autorise à dire qu'il a été lui seul le créateur d'une humanité supérieure et qu'il incarne le type originel de ce que nous entendons par homme. L'Aryan est le Prométhée de l'humanité. C'est de son front lumineux que l'étincelle divine du génie a toujours jailli. Si on éteignait cette étincelle, une obscurité profonde s'appesantirait pendant des millénaires sur la Terre. La culture humaine disparaîtrait et le monde deviendrait un désert. Donc vous voyez une vision du monde très manichéenne qui pourtant n'a pas été prise au sérieux et cela permettra à Hitler, malgré sa peine de prison, malgré la division du parti nazi à son retour en 1925 entre une aile gauche en Franconie autour des frères Stresemann qui a des ambitions révolutionnaires et une aile conservatrice en Bavière autour notamment de Julius Streicher, eh bien cela permettra au parti nazi de bénéficier d'une grande complaisance et de progresser électoralement jusqu'à l'année 1933 où avec un tiers des voix au Reichstag, il arrivera à être nommé chancelier. Mais cela, c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Et je vous propose de terminer sur un extrait d'un film paru en 1923, un film muet de Fritz Lang, qu'il a ensuite mis auquel il a donné son en 1960 lorsqu'il a dû quitter l'Allemagne durant la prise de pouvoir par les nazis pour se réfugier aux États-Unis. Ce film, c'est le testament du docteur Mabuse, où un criminel se propose de prendre le pouvoir pour réaliser rien d'autre que le crime.
Des crimes inexplicables, sans profit pour personne, répandront partout la panique